Le titre que vous avez choisi de donner à ce livre, Cornelius Castoriadis, La montée de l'insignifiance, qui paraît aux éditions du Seuil dans la collection La couleur des idées, c'est le titre, en fait, d'un entretien que vous reprenez, un entretien de juin 1993 avec Olivier Morel, où vous évoquez, entre autres, votre trajectoire intellectuelle. Et vous rappelez que cette trajectoire a commencé il y a quelques années maintenant.
60 au moins, oui.
Vous étiez très jeune et déjà vous aviez commencé à vous occuper de politique. Vous avez découvert en même temps d'ailleurs la philosophie et le marxisme alors que vous aviez 12 ans.
12, 13, je ne sais plus exactement.
Et 12 ans, souvent on lit Bibi Fricotin ou Tintin, mais pas Karl Marx.
Oui, mais enfin ça dépend des gens. J'ai toujours beaucoup lu dès mon âge le plus tendre et j'étais plongé pendant des années dans Jules Verne par exemple, ou après dans des ouvrages d'histoire comme Duruy dans l'histoire romaine, ou Mommsen, ou une grande histoire grecque d'un auteur grec qui s'appelait Papaliopoulos. J'adorais l'histoire. Et puis c'est vrai qu'en lisant Marx, les marxistes, il y a une sorte de lumière qui s'est faite, parce que ces événements qui paraissaient complètement incohérents ou une simple narration, comme Iacobus et Rémus, et puis une louve, etc. Et puis après il y a la guerre punique, la première, la deuxième, la troisième, et on comprend. Bon, c'est vrai que avec le marxisme, ça commençait à prendre un sens. Je me suis aperçu après que ce sens était largement faux, mais peu importe la question, c'est précisément, on est là encore dans le labyrinthe. Mais la question d'être lancé.
Oui, mais vous en êtes aperçu assez vite, hein, c'est-à-dire que, bon, quand on est très jeune, qu'on lit Marx, on peut prendre ça pour l'argent comptant. Et en fait, vous avez découvert assez vite que le Parti communiste n'avait rien de révolutionnaire.
Oui, il y a eu des étapes, parce que Marx, c'est une chose, le Parti communiste, entre 37 et 41, 42, sous l'occupation, c'est une autre chose. Précisément, on comparait le Parti communiste avec ce qu'on avait pensé en lisant Marx, et on voyait qu'il était totalement recalé, enfin, qu'il était même à l'antipode de ce que un vrai marxiste, ou Marx lui-même, aurait pu penser et faire. Donc, entrer dans le trotskisme, et puis la critique de Trotsky comme quelqu'un qui commençait à voir la vérité sur l'Union soviétique, mais n'allait pas jusqu'au bout. Donc une nouvelle conception sur la Russie et sur les partis communistes dans les pays, disons, bourgeois, comme un régime totalitaire, mais aussi capitaliste bureaucratique, comme je l'appelais. Et puis, là, c'est la fondation du socialisme barbare.
Mais la révolution, c'était toujours un beau projet pour vous?
Ça l'est toujours, mais révolution, ça ne veut pas dire forcément le sang, les exécutions, les barricades, etc. Mai 68, par exemple, si les gens qui le faisaient n'étaient pas très fortement minoritaires dans la population, ça aurait été une révolution. Et si il devait y avoir du sang de couler après, enfin, en fonction, disons, d'une victoire du mouvement de mai 68, ça aurait certainement pas été dû à eux, mais un quelconque général Massu qui n'aurait pas supporté la chose, qui aurait essayé de marcher sur Paris, et ça aurait déclenché probablement les événements. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est comme ça que ça s'est passé. Que s'il y a des guerres civiles dans les révolutions, que ce soit après 89, c'est les émigrés qui trafiquent à partir de Koblenz, etc. Même en Russie, d'ailleurs. Même en Russie, c'est la guerre. Indépendamment du caractère déjà totalitaire d'octobre 17, l'état de Lénine, c'est l'intervention des Blancs qui déclenche la guerre civile. La commune de Paris, bon, elle a rien fait de terrible, mais c'est Thiers qui l'a attaqué, qui ensuite a massacré les communards.
Ce qui se passe au Mexique aujourd'hui, ça vous trouble un peu?
Ça ne me trouble pas, parce qu'on est assez habitué à ce genre de choses. J'avoue que je ne connais pas de première main la situation, je la connais qu'après les contenus des journaux. Je crois que c'est un mouvement qui est très sympathique, parce qu'il a l'appui des pauvres indiens qui sont là surexploités par des propriétaires terriens et par l'État, etc. Cela dit, nous savons d'après l'expérience du dernier demi-temps, parce qu'on est pauvre, qu'on a forcément raison politiquement. On peut être précisément mystifié parce qu'on est pauvre, le mouvement peut être exploité. Ce que sont vraiment Marcos et les zapatistes, je ne le sais pas. Enfin, maintenant, je vois qu'il y a des tas de gens qui se précipitent là-bas, depuis Daniel Mitterrand jusqu'à Régis Debray, je ne sais pas qui d'autre.
Ça lui permet de faire un beau morceau de littérature.
Et voilà, c'est devenu le must de la mode politico-littéraire du tout Paris, enfin, du microcosme parisien. Mais enfin, bon, espérons que tout ça, ça n'affecte pas la vraie substance de ce mouvement. Mmh.
Révolution, révolutionnaire sont quand même des beaux mots. Et dans l'entretien, Montée de l'insignifiance, qui se trouve dans votre livre, vous avez tendance à considérer que le mot révolutionnaire, aujourd'hui, est un peu galvaudé.
Oui, c'est certain. C'est certain, puisque vous lisez des publicités qui vous disent la nouvelle cuisinière miel est tout à fait révolutionnaire. Bon, de même que le mot création est galvaudé. Bon, on parle de création, un coiffeur qui est très créateur, par exemple, etc. Bon, c'est pas ça que j'entends par création.
Pour revenir un peu en arrière, socialisme ou barbarie, dont la revue a compté tout de même 40 numéros jusqu'en 1965, c'est une revue qui vous a permis de remettre un peu les pendules à l'heure.
Oui, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la publication Socialisme Barbarie, je m'apercevais des différentes impasses auxquelles conduisait la théorie trotskiste d'abord, le léninisme ensuite, que j'ai très tôt considéré comme responsable. J'ai passé en Russie, longtemps avant, c'était absolument évident, à l'époque peu de gens le pensaient. Et puis dès 1953, je commence à remettre en cause le système économique de Marx. Bon, je travaillais comme économiste à l'époque, je travaillais pendant plus de 20 ans à l'OCDE pour faisant de l'analyse économique, du court terme, du moyen terme, même du long terme. Et je m'apercevais que ce qui était décrit ou supposé par Marx n'avait rien à faire avec l'évolution réelle des économies capitalistes mûres ou matures, comme on dit aujourd'hui. C'était tout à fait différent, quelle que soit la valeur du point de vue sociologique, d'une sociologie de l'économie, des analyses de Marx. Mais au plan proprement économique, ça ne marchait pas. Marx avait voulu faire une théorie newtonienne de l'économie capitaliste. Il ne peut pas y avoir de théorie newtonienne de l'économie. C'est faux dans la méthodologie et dans la philosophie de la chose. Et puis, surtout, ce qui est très étonnant chez lui, il n'avait pas vu le facteur principal, où il l'a négligé. C'est-à-dire que les prévisions qu'il faisait sur l'évolution du capitalisme, peut-être se seraient réalisées avec une classe ouvrière totalement passive, réduite à simples matériaux d'exploitation. Or, la classe ouvrière n'est pas restée passive. Elle a lutté, elle a fait augmenter les salaires, elle a fait diminuer les heures de travail, etc. Et ça a bouleversé complètement la perspective pendant plus d'un siècle. Et si maintenant nous sommes là où nous en sommes, c'est parce qu'il y a une apathie générale, c'est-à-dire que les gens, il ne s'agit plus seulement de la classe ouvrière. Les salariés, la société en général, laissent faire. C'est la privatisation. Et je crois d'ailleurs que ça contient en germe une crise encore plus grave pour le système capitaliste lui-même.
Vous dites que depuis la fin de socialisme ou barbarie, c'est-à-dire depuis l'été 1965, il y a 30 ans maintenant, vous ne vous êtes plus occupé activement de la politique, sauf un bref instant, en mai 68.
Ponctuellement, oui. Là, j'avais écrit un texte. Les étudiants surtout, pas beaucoup d'ailleurs, je ne crois pas qu'il a eu un impact. Et ensuite, avec Edgar Morin et Claude Lefort, on a publié en juin 68, dans le show des événements, un petit volume collectif qui s'appelait La Brèche, et qui a été réédité par les éditions Complexes à Bruxelles il y a... en 88, je crois. La Brèche est 20 ans après, c'est cela. Et là, j'avais écrit un texte où j'essayais à la fois d'analyser la situation, de dire ce qu'il y avait de nouveau, d'expliquer pourquoi, à mon avis, il y avait eu certaines failles dans le comportement des gens qui étaient dedans, notamment leur farouche refus de toute organisation un peu plus consistante, et une dissolution déjà potentiellement là, puisqu'on ne peut pas rester dans l'extase et dans l'orgasme des nuits des barricades indéfiniment. Il faut quand même que le jour arrive et que là, il y a les travaux et les jours, précisément. Et ça implique un certain travail, une certaine organisation, etc. Et ça n'avait pas été vu par le mouvement. Ça n'avait pas été vécu comme ça.
Donc un petit sursaut en 68, mais tout de même, Cornelius Castoriadis, c'est 30 années de retrait, de retraite, peut-être. Est-ce qu'elle ne ressemble pas à cette apathie que vous dénoncez justement dans votre livre ?
Je ne crois pas, parce que je ne suis pas... Quand je parle de retrait, de ne pas m'occuper de politique active, il faut mettre le mot sur active. J'ai toujours essayé d'intervenir tant que je le pouvais. Si j'ai publié Devant la guerre, par exemple, en 80, c'est parce que je pensais, je crois que j'avais raison, qu'il y avait un aveuglement général sur la véritable nature et les véritables intentions du régime russe à l'époque. Il venait d'envahir l'Afghanistan. Et maintenant, par exemple, ce livre, à mes yeux, c'est aussi une intervention politique, concret du terme, d'une activité organisée collective. Bon.
Ce qui caractérise, à vos yeux, essentiellement le mouvement de mai 68, ce fut la critique et le refus des formes d'organisation traditionnelles.
Oui.
C'est-à-dire, c'est un projet qu'on peut dire philosophique.
Tout à fait. Tout à fait. Mais là, il y a quand même l'autre moitié. Ce refus des organisations traditionnelles était tout à fait juste, et recoupé d'ailleurs des analyses que moi et d'autres avions faites dans ce livre, je m'appareille depuis presque 20 ans à l'époque. Mais en même temps, ça restait ce refus. À savoir, les gens n'avaient pas l'air de voir qu'on ne pouvait pas se contenter de dire que l'organisation engendrait la bureaucratie, parce que ça, c'était vrai de certaines formes d'organisation traditionnelle. Mais il fallait aussi qu'ils disent, puisque ces types d'organisations ont engendré la bureaucratie, il faut essayer de créer d'autres qui soient véritablement démocratiques, qui permettent l'expression du mouvement, qui excluent le monopole de la direction du mouvement par un petit groupe de dirigeants, par une couche de dirigeants qui se créent, etc. Et ça, on ne l'a pas vu.
J'ouvre une toute petite parenthèse, il y a une formule là que vous n'aimez pas du tout, c'est la formule « la pensée 68 » qui...
Oui, mais ça, c'est une formule qui a été inventée par Luc Ferry et Alain Renaud. Et à mon avis, c'est un malentendu fondamental. Ils ont écrit un petit livre dans lequel ils lient à 68 tout le mouvement structuraliste et analogue, par exemple Althusser, Lacan, Foucault, etc. Alors qu'en fait, pour moi, ces gens qui existaient un peu avant mai 68 exprime surtout l'échec du mouvement, puisque déjà avant, ils exprimaient une sorte de refus de la politique, proclamaient la mort du sujet, de l'histoire, de la philosophie, de tout ce que vous voudrez. Et ce n'était pas ça du tout, mai 68, qui pensait au contraire qu'il y avait à vivre, et qu'il y avait une histoire à faire. Alors, mon interprétation, je crois qu'elle est portée par les faits, c'est que c'est l'échec de 68 qui a propulsé ces gens au sommet du végétariat, parce que précisément les gens voyaient dans les écrits de ces personnes une sorte de justification anticipée de la décision qu'ils étaient en train de prendre, c'est-à-dire qu'il faut rentrer chez soi, qu'il faut cultiver son jardin. Le souci de soi, comme a dit le camarade Foucault quelques années après, ce qui est un titre tout à fait alexandrin, un titre décadent, un contenu décadent, la cité n'existe plus. L'éthique, la morale, tout ce que vous voudrez, ça revient au souci de soi.
Alors donc, pas de cité, pas de société, pas de communauté.
Pratiquement.
Des individus.
Oui, tout à fait.
Un désir d'autonomie.
Ah non, mais c'est pas pareil, parce que l'autonomie, c'est pas l'anomie et c'est pas l'individualité détachée du reste. Je ne peux pas être autonome tout seul. Je suis autonome dans une société où l'autonomie est possible. Et pour que l'autonomie soit possible dans la société, il faut que cette société soit elle-même autonome en un certain sens. Je suis de moins en moins autonome dans une société qui est envahie par la télé, par exemple. Par exemple, je ne veux pas élever ma fille comme je veux, pour la très simple raison que j'ai beau ne pas avoir de télé chez moi, elle va à l'école, et à l'école, elle revient à la maison en portant sur la semelle de ses chaussures, si je peux dire, ou sur les feuilles de ses oreilles, toute la crasse télévisuelle.
Oui. On lui fait miroiter plein de princes charmants qui ne ressemblent
pas seulement, on lui fait miroiter.
Ressemble pas à Karl Marx, à Hegel.
Non, mais c'est pas tellement Marx et Hegel. Pourquoi Marx et Hegel? Il y a aussi Achille et Ulysse, et il y a Macbeth, que les âneries qu'on donne aux enfants aujourd'hui à la télévision.
Donc, pour résumer, mai 68, les différents mouvements des instants sont consacrés par ailleurs à un autre texte. Ça aboutit tout ça à une phase de régression de la vie politique.
Oui, mai 68 est un sommet, et la fin de mai 68, ça marque, à mon avis, en France, une certaine fin de, d'une certaine activité sociale et politique. Il y a eu après des petites choses en 70 et 80. Il y a eu la dernière grève de novembre décembre dont je n'ai pas pu parler dans ce livre. J'ai mis simplement une note en disant que on ne peut pas faire entrer ces grèves dans le constat général de l'apathie. Qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. À mon avis, c'était là l'erreur de ceux qui ont pris position soit contre la grève, soit pour la grève, qui n'ont pas vu la considérable contradiction qu'il y avait entre les revendications de surface de cette grève, qui était effectivement corporatiste, qui n'avait pas beaucoup de sens social, et le noyau profond du mouvement, qui était un ras-le-bol pour ce qui est de la société, de son état, des dirigeants, de leurs mesures, de leur façon de diriger, de l'orientation de ces directions, etc. Mmh. Et ça, c'était très important, et ça, je crois que c'est pas fini. On peut espérer qu'il y aura autre chose de ce genre.
Alors, si on revient à cette crise, qui est un peu le fil rouge de votre livre, Cornelius Castoriadis, La montée de l'insignifiance, publié aux éditions du Seuil, elle ne ressemble pas à cette fracture sociale dont on nous rebat les oreilles aujourd'hui ?
Alors, la fracture sociale n'est qu'une partie de cette chose. Il y a effectivement, je l'ai dit quelque part, pour un temps, mais combien de temps ça durera, c'est une autre affaire, la société contemporaine réussit à fonctionner en refoulant toute la saleté, toute la crasse, toute la misère du système sur 15 ou 20% de la population, qui sont les chômeurs, les noirs ailleurs, les arabes ici, etc., ou en Angleterre, les immigrés, bon. Et comme ça, les autres 70-80% peuvent vivre, avec une énorme partie de cela d'ailleurs, qui est de plus en plus dans l'angoisse de la carité, n'est-ce pas ? Ça, on le voit. C'est d'ailleurs ce qui a retenu les gens en dehors du secteur public en novembre-décembre d'intervenir. Alors que la population, curieusement, on peut dire, était très sympathique avec le mouvement. Moi, j'ai rencontré des gens qui faisaient 3 heures de marche par jour pour aller à leur travail et qui étaient, ils disaient, les grévistes ont raison. Mmh. Il faudrait faire ça pour tous. Bon, mais donc, il y a cet aspect-là. Et il y a en même temps l'avenir, c'est-à-dire une perspective dans laquelle on peut demander si on pourra continuer, si la société pourra continuer comme ça à fonctionner avec simplement 15 ou 20% refoulés, parce que je pense que la mondialisation de tous les moyens d'intervention sur l'économie volontairement risque de provoquer, même au plan strictement économique, des difficultés beaucoup plus grandes.
Quand on est en face d'un philosophe comme vous, on ne s'attend pas à des propositions de loi ou à la distribution de subsides, mais à des idées pour en sortir.
Oui.
C'est-à-dire qu'on se pose la question du pouvoir des intellectuels dans cette affaire qui n'est pas une petite affaire.
Oui, mais le pouvoir des intellectuels, c'est peut-être une expression qui n'est pas très... très adéquate. Il n'y a pas de vrai pouvoir des intellectuels, il y a un rôle possible. Et les intellectuels d'aujourd'hui, à mon avis, ont complètement trahi ce rôle. Tout se passe comme si, après les aventures de Heidegger d'un côté avec les nazis et de Sartre de l'autre avec les staliniens, les intellectuels avaient décidé de se retirer dans une tour d'ivoire, qu'on ferait mieux d'ailleurs d'appeler une tour de polystyrène, comme je l'ai fait une fois, ou alors, de temps en temps, de signer telle protestation, telle autre protestation, sans essayer de comprendre vraiment ce qui se passe et d'avoir autre chose que des réactions. Ça, c'est mauvais. Bon, oui, il y a des choses qui sont mauvaises, des protestations. Bon, mais il y a autre chose à faire. Il y a à comprendre pourquoi on en est là. Essayer de le montrer aux autres, essayer de rouvrir le débat, essayer de montrer que ce cours de la société n'est pas fatal, que par exemple maintenant ce qu'on présente comme une fatalité, comme s'il y avait un énorme météorite de quelques milliers de tonnes qui suivait inexorablement sa marche vers la Terre et qui allait nous écraser ou créer une nouvelle disparition des dinosaures humains, n'est-ce pas, comme il y a 65 millions d'années. La mondialisation, on la présente comme ça. Alors, c'est pas du tout comme ça. La mondialisation est un résultat, a comme condition, bien sûr, c'est le résultat d'un mouvement spontané du capital, mais elle a comme condition des attitudes des gouvernements et des États. On a libéré les mouvements des capitaux, on a libéré les importations, etc., etc. Bon, on a renoncé à tout rôle régulateur de l'État. Donc, même dans le cadre du capitalisme, c'est pas fatal. Encore plus, c'est pas fatal tout court, sans phrase. Bon, donc, il y a là à le dire, il y a à dire aux gens, est-ce que vous voulez ça ? Est-ce que vous voulez peut-être à l'horizon une France d'où toute industrie et tout le reste, sauf peut-être le champagne et le camembert, aura été délocalisé en Asie du Sud-Est, et qui deviendra peut-être un hôtel bordel pour les riches asiatiques. Est-ce que ça, votre idée de l'avenir ? Voilà.
Donc pas de pouvoir, mais une drôle de responsabilité.
Oui, sans doute.
Alors notre époque, c'est une époque de conformisme, conformisme généralisé. Est-ce que ça explique, à vos yeux, le triomphe du capitalisme, qui n'a pas besoin d'autonomie, mais de conformisme ?
Ça n'est pas une cause, c'est une condition et un résultat en même temps. C'est-à-dire au fur et à mesure que ce cours s'est amplifié, qu'il y a eu à la fois l'apathie, puis par les médias, cette espèce de ronron quotidien, de, je sais pas, de etc., il s'est créé de plus en plus ce conformisme qui, en retour, permet une survie extraordinaire du système. Et ce qui se passe là, c'est assez clair. Bon, je ne veux pas revenir sur la question de l'économie et de la politique économique, mais ce qu'on appelle la pensée unique est une incroyable stupidité et régression intellectuelle. Bon, mais ça traduit précisément ce conformisme. Personne n'ose se dresser la contre. Et la même chose est vraie aussi, mais ce serait trop long d'essayer de l'illustrer, au plan intellectuel en général. Il y a certaines choses qui sont admises, et il y a d'autres qui ne le sont pas. Et il y a une sorte de censure silencieuse qui se fait sans qu'il y ait aucun censeur, sans que la police intervienne ou d'autres, ni les éditeurs d'ailleurs. Mais c'est cette espèce de consensus, précisément, mot horrible, qui envahit tout et qui fait que même des voix dissidentes, même si elles peuvent s'exprimer, perdent leur signification ou sont récupérées dans la cacophonie générale.
La démocratie dans tout ça, elle a beau dos alors.
Oui, on parle de démocratie tout le temps, à tout bout de champ, mais on entend par là le fait que tous les 5 ans, il y a des élections et qu'il y a quelques droits de l'homme, des droits défensifs. Bon, je peux dire ici à vous, et vous pouvez me répondre ce que nous disons sans qu'on craigne peur que la Gestapo ou la GPU viennent nous arrêter, d'accord ? C'est important, c'est pas seulement formel, comme disait Marx. C'est important, c'est positif, mais c'est limité. Ça ne suffit pas. Nous ne pouvons pas vraiment jouer notre rôle de citoyen pour changer quelque chose dans la société. Et encore nous deux, nous sommes privilégiés parce que nous avons là une tribune, même si c'est pour quelques dizaines ou centaines de milliers d'auditeurs. Mais pour les autres, c'est pas comme ça. Ils n'ont même pas une tribune.
La résistance, alors, a encore de beaux jours devant elle ?
Je crois, oui. En laissant l'impression que le livre s'occupe uniquement de l'actualité politique. Des textes sur l'anthropologie, sur Freud, et il y a surtout des textes auxquels tient beaucoup dans la dernière partie du livre. Par exemple, le texte qui s'appelle « La démocratie comme procédure et comme régime », qui sont des textes théoriques, de théorie politique, qui, à mes yeux, sont parmi les moins insignifiants de ceux que j'ai pu écrire.
Ça, c'est des textes qu'il faut lire, d'entendre.
Ah oui, il faut les lire.
Parler sens... comme on le fait là, à bâton rompu.
Non, il faut lire au sens lourd du terme.
Le livre de Cornelius Castoriadis, La montée de l'insignifiance, qui est le 4e tome des Carrefours du Labyrinthe, est publié aux éditions du Seuil dans la collection La couleur des idées. Du jour au lendemain, Christian Prévost, Bruno Sourcy, François Poirier, Alain Weinstein. Bonsoir.